Une femme peut être victime sans faire son que le mot soit prononcé.
Weakness, fear, and hopelessness die. Strength, power, and courage will come.
En fait, on envisage la possibilité de se faire insulter, de se faire frapper, de se faire humilier en public.
I am among the ranks of women whose expressions are seen as too strong, too aggressive.
Women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up.
Bonjour, bienvenue sur Reine des Terres, le podcast qui décortique le système patriarcal et qui tente d'y survivre. Donc on va parler de K-pop aujourd'hui, avec en étude de cas les BTS. Aujourd'hui on va parler du coup avec Morgane.
Salut.
Déjà un invité qui était venu pour l'épisode sur la transidentité et aujourd'hui il nous fait encore l'honneur de sa présence pour la K-pop et les BTS.
Yes.
Nous allons décortiquer donc ce genre musical, les biais qui sont sexistes ou les avancées aussi sur le féminisme.
J'aimerais faire un petit disclaimer avant. Non, parce qu'on va parler du coup, on va faire quelques critiques sur la société coréenne en général avec la K-pop, etc. Avec le sexisme et tout. Mais j'adore la K-pop, j'aime beaucoup la Corée du Sud et évidemment, il y a beaucoup de problèmes de sexisme partout dans le monde. Hein. Donc là, on essaie juste de prendre un peu de recul et tout sur ce qu'on aime, mais... Écouter de la K-pop, c'est trop bien.
Oui, on va pas blâmer non plus le genre, franchement. Alors, du coup, on va commencer par définir la K-pop. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient, l'influence, le phénomène
Ouais. Alors, la K-pop, en fait, c'est un genre musical. Enfin, c'est plus une industrie musicale coréenne, sud-coréenne surtout. Il y a beaucoup d'influences, il y a beaucoup de genres différents aussi au sein de la K-pop en fait. C'est pas, on dit K-pop par commodité on va dire, parce que c'est le terme générique, mais c'est pas que de la pop. Il y a une grosse influence surtout du R&B, du hip-hop et de la black culture en général. En K-pop c'est vrai qu'il y a des normes assez strictes, il y a très 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 peu de groupes mixtes. Ça va être des boy group ou des girl group. Et ils vont avoir chacun des styles très spécifiques. C'est assez. Alors, on va le voir peut-être un peu plus tard, mais au fil des générations, ça commence à évoluer. Mais à la base, les groupes masculins vont avoir un peu l'apanage du style, justement, très powerful, on va dire. Voilà, il faut que ce soit un peu des héros. Très stylés, qui ont des danses très 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 hip-hop justement, ou alors ils vont avoir plus des ballades un peu séductrices, mais toujours avec beaucoup d'élégance. Ça va donc leur choré vont ou alors être très énergiques, mais genre ouais toujours avec ce côté powerful quoi, genre vous mettez des mouvements puissants dans vos chorégraphies, alors que chez les girl group on va beaucoup plus insister sur le côté très mignon, très kawaii en fait, même si bon c'est plus le côté Japon, mais je pense qu'il y a de l'influence quand même, le côté il y a toujours eu cet univers un peu d'écolière, un peu innocente, alors c'est ça qui est un peu bizarre, genre elles sont assez sexualisées, les femmes dans les girl group, mais toujours avec ce côté très innocent, donc en tenue d'écolière, etc. Et puis leurs chorégraphies vont être beaucoup plus mimi, quoi. Alors que pourtant, enfin, ça vient pas de capacités naturelles de l'homme et de la femme qui ne peuvent faire qu'un type de danse naturellement, non, puisque de toute façon. Les mecs s'amusent de leur côté à reproduire les chorégraphies des girl group et inversement les meufs vont pouvoir faire les chorégraphies des mecs, hein, même il y a des reprises etc qui sont faites et donc c'est pas une question de capacité, hein. Clairement c'est juste que ouais, on a collé une certaine image, après avec les boy group ont quand même plus de possibilités de fluidité. Ils peuvent se permettre des trucs un peu plus mignons aussi, mais ça reste un peu rare. Alors que les girl group, alors depuis récemment, ça commence à changer.
Bah justement, par rapport à ça, est-ce qu'on peut parler du coup d'une évolution de la K-pop et des générations, du coup, qui ont fait que ça a changé, que c'était moins genré, codé, en fait, dans les deux côtés, quoi.
Ouais, parce que alors on a à peu près 4 générations ou 5 selon les personnes qui décident de les classer. Moi, je pars sur 4, on va dire. Les années 90, avec la première génération, Soyte, Jin, The Boys, etc. On a une deuxième génération avec un peu les anciens, ceux qui ont fait exploser plus à l'international pour le coup. Et donc la troisième génération à laquelle appartient BTS et notamment Blackpink aussi, le girl group le plus connu aussi dans la K-pop. Donc ils sont un peu dans un entre-deux où ça reste très très codé. Quand on voit Blackpink et BTS par exemple, si on les compare, en tout cas dans leur début, il y a clairement deux univers très très différents. Surtout que les BTS, ils ont commencé très rap, hip-hop, assez énervé un petit peu, quoi. Enfin, genre ils essayaient un peu de se donner un genre un peu badass, un peu bad boy. Alors que Blackpink, ça va être plus girly. Mais alors, elle, ça n'a jamais été trop mignon non plus. Mais voilà, c'est beaucoup de chansons d'amour. Beaucoup de choses qui parlent, voilà, beaucoup de sentiments, etc. Donc un truc très codé féminin. Mais elles, dès le début, quand même, elles ont joué avec le côté... Bah, c'est dans leur nom, Blackpink. Donc elles se sont toujours quand même un peu assumées en tant que girl group féminine, mais qui vont explorer des thèmes un peu plus qui appartiennent peut-être plus à la gente, enfin à la classe masculine d'habitude, et ça va aller en évoluant aussi. Et du coup, je pense que ça, et pareil, BTS vont aussi se permettre plus tard de faire des choses beaucoup plus chill, des balades beaucoup plus, même des trucs beaucoup plus romantiques, etc., dans l'esprit, en tout cas même dans leur musique vidéo, etc. Enfin, je pense à Boy With Love. Genre, pareil, les chorégraphies, on n'est pas dans quelque chose de très viril, quoi, genre, j'ai envie de dire.
Qui se sont un peu sortis en fait, des carcans qu'on avait dit de faire, quoi.
Je pense que ça a un peu aussi mené à la dernière génération, donc la génération actuelle des boys band qui ont débuté il y a max 4-5 ans, quoi. Et là, on a vraiment... plein de choses en fait différentes, et c'est ça qui est très intéressant. On va avoir des boy group assez classiques, enfin je pense à Stray Kids qui va être toujours dans un truc très hip hop, très rythmé, etc., avec des chorégraphies, avec une volonté de montrer un peu de la puissance, etc. Mais dans les groupes féminins, donc on va aussi avoir ça. Alors je pense à Aespa ou G-Idle, très intéressant G-Idle, parce que elles sont pareil assez féminines au final, elles restent très féminines mais elles explorent beaucoup de choses, et elles vont avoir un thème plus queen, tu vois, genre un peu girl boss en fait, que j'aime bien. Et voilà, ils se permettent, alors je vais pas faire tous les exemples, mais je pense que de toute façon, si on fait des recherches, qu'on regarde un peu en fait les différents groupes au fil des générations, je pense que l'évolution, elle est assez claire. Il n'y a pas besoin de faire trop de recherches. Même visuellement, en fait, surtout visuellement.
Ça a changé dans les thèmes abordés aussi, peut-être, dans les paroles et tout.
Ouais, les girl groups, j'ai l'impression que c'était surtout beaucoup de chansons d'amour, mais genre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Chez les hommes aussi, mais ça va être très cliché. L'homme qui chasse la meuf, quoi, qui lui court après et qui lui montre à quel point il est fort, à quel point il est cool, et elle, à quel point elle est belle, et il la mérite pas, mais en même temps, il est tellement fou d'elle que il va absolument la conquérir, même si au début, elle lui dit non. Donc, c'est aussi pour ça qu'on va pas en parler de sexisme, notamment dans certaines paroles. Mais, et les femmes, ça va plus être dans une relation passive, à la base, en mode un garçon qui lui fait tourner la tête, les beaucoup de mélancolie aussi, ah, mais il est parti, je ne sais plus, enfin, ce genre de choses. Là, on a une réappropriation des codes un peu, un peu viril presque, en fait, des girl groups où c'est les boss, quoi. C'est bon, c'est terminé. Les mecs leur courent après, certes, mais elles s'en foutent. Ou alors, si elles veulent un mec, elles vont l'avoir. Bon, il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a aussi des chansons d'amour un peu plus classiques, etc. Mais je pense encore une fois à G-Idol avec Tomboy, par exemple, où elles disent non au mec, en fait, et elles restent entre elles. Et on pourrait même interpréter ça comme une chanson un peu lesbienne. Mais bon, il n'y a rien d'officiel ou quoi, mais il y a des petits indices, on va dire, qui vraiment, genre, à la fin du clip, voilà, elle balance le mec, le cadavre du mec, je sais plus, enfin, de la voiture, etc. Et puis elles repartent comme des queens. Et de plus en plus, même avec Blackpink aussi, il y a un peu cette revendication-là de pas avoir besoin d'un homme dans leur vie et qu'elles ont. Elles ont grimpé toutes seules, elles ont leur succès, elles ont de l'argent, tu vois, et genre elles ont pas besoin qu'on pourvoie à leurs besoins. Non, elles se débrouillent toutes seules en fait, et elles ont leur succès. Et fuck the haters, you know.
Et en fait, chez les fans de K-pop, il y a beaucoup de mépris, je trouve. Enfin, c'est vraiment pas un genre qui est vraiment apprécié par la population en général, quoi. Et du coup, un peu de sexisme aussi, en mode ah c'est pour les midinettes. Ça, c'est aussi beaucoup chez les boys bands. Mais est-ce que aussi il y a un peu aussi du sexisme entre les fans des girls bands ou des boys bands, ou même aussi de la K-pop en général? Que ouais, on méprise ou même on fait du sexisme, parce que souvent c'est des fans très midinettes et tout qui aiment ça, ou pas forcément d'ailleurs.
Ouais, bah en fait un peu toutes ces choses là, c'est à dire que les fandoms des groupes de K-pop en général, et spécifiquement des boy groups, effectivement, ça va être dans l'imaginaire des gens, ça va être que des gamines de 13 ans qui sont hystériques. Mais ouais, comme un peu tous les boys bands en Occident, on pense aux Beatles, à One Direction, c'était un peu cet effet-là aussi. Voilà, elles sont toutes amoureuses, de toute façon elles s'en foutent de leur musique, elles sont là que parce qu'ils sont beaux. Ce genre de choses. Enfin.
Après aussi, c'est les paroles. Quand on prend One Direction, mais même aussi dans les chansons des BTS, ça parle beaucoup d'amour et tout. Peut-être qu'on se dit l'amour et tout, c'est pour les filles.
Ouais, mais il y a plein d'artistes qui sont pas catégorisés comme des artistes pour la gente féminine qui parlent d'amour. Enfin, tous les. Enfin, dans le monde de la musique, je veux dire, c'est quand même quelque chose de hyper récurrent, l'amour, mais c'est plus. Le côté, il y a aussi du racisme qui fait que on va considérer que les idoles masculines de K-pop, c'est tous des, j'allais dire le p-word, mais c'est tous des gays parce qu'ils sont efféminés, etc. Alors que c'est juste qu'on n'a pas du tout les mêmes codes de la masculinité, de la féminité chez nous, même en Europe ou en Occident plutôt qu'en Asie, par exemple. Quand tu connais un peu, je regarde des girl groups et des boy groups, tu sais différencier une femme d'un homme en Corée du Sud. Enfin, c'est juste que c'est des critères différents.
Ouais, c'est ça. Après, je trouve aussi, il y a quand même ce côté, dès que des hommes entre eux ont une masculinité positive, ils s'entendent bien, on dit tout de suite que c'est des gays, ou qu'ils sont du coup, qu'ils ont des attributs féminins, on va penser que c'est des gays. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce côté, comme tu dis, on n'a pas les codes en fait coréens, et du coup, on va placer nos codes occidentaux, tu vois. Donc, et est-ce que du coup, tu peux parler un peu du skinship dans les groupes? Donc, qu'est-ce que c'est du fanservice? Qu'est-ce que c'est aussi déjà? Est-ce que c'est sincère?
Ouais, alors effectivement, en Corée du Sud, c'est très courant que les amis de même genre, en fait, soient extrêmement proches, soient très tactiles entre eux, se fassent des câlins, des bisous, se tiennent la main, etc. Et pour nous, occidentaux bien virils, n'est-ce pas, no homo, il y a des gens qui trouvent ça très bizarre, qui sont, mais ils sont gays ou quoi, enfin, c'est trop bizarre, machin, sauf que la Corée du Sud étant une société assez homophobe, même si avec les jeunes générations ça progresse très vite quand même, mais dans les mentalités en tout cas, mais globalement ça reste assez homophobe, et du coup il a fallu justifier ça, cette coutume, on va dire, et du coup ils ont appelé ça le skinship. Donc c'est littéralement ça, c'est les amis qui sont très proches, tactiles et tout, mais des amis, hein, no homo, encore une fois, tu vois. Et du coup ça, c'est Et notamment avec l'expansion à l'international, en fait, comme il y a eu l'apparition aussi beaucoup des ships, justement, les fans qui shippent ou qui veulent voir deux membres du même groupe ensemble, ce genre de choses, beaucoup de fanfiction gay, ce genre de choses. Et du coup, en fait, ils se sont un peu mis à jouer à ça, enfin, à jouer avec ça, justement. Donc après on pourrait se poser la question du queerbaiting aussi du coup parce que sur scène ils vont faire ils vont être très proches, ils vont se faire des câlins, ils vont s'envoyer des bisous, ce genre de choses, et ça va faire hurler les fans qui sont trop contents et trop contentes. Potentiellement c'est sûrement du fan service, et parce que le truc c'est que il y a parfois des artistes qui vont jouer beaucoup de ça, qui vont jouer un peu l'homo-érotisme avec les autres membres de leur groupe, mais qui à côté de ça vont tenir des propos très homophobes. Donc là on pourra parler queerbaiting parce que ils font genre ils séduisent un peu les fans queer en leur montrant un peu d'inclusivité ou de avec mon pote quand même, c'est un peu voilà. Mais du coup ça fait hurler les fans queer parce qu'on est trop contents. Sauf que à côté de ça, en fait, ils sont homophobes, donc c'est très hypocrite. Après, c'est pas forcément ça, parce que ça peut être extrêmement sincère aussi. Enfin, je veux dire, c'est dans la culture en fait d'être proche. Donc a priori, en plus dans les groupes, enfin, ils sont H24 ensemble, ils se connaissent depuis qu'ils sont trainees souvent, enfin donc des années même avant même de débuter leur groupe. Donc
ouais, vraiment, c'est spécifique au groupe de K-pop en fait, le trainee.
Alors un trainee, c'est en gros toutes les années que tu passes à l'agence à t'entraîner justement, à apprendre la danse, le chant, etc. Mais pour plus tard espérer te lancer dans l'industrie, dans un groupe ou voire en solo, mais c'est un peu plus rare. Mais du coup, et on parle de trainee quand ils sont encore en apprentissage en fait. Et ensuite, ils peuvent commencer leur début et donc le lancement du groupe avec tout ce qui est promo, etc. Et après, leur carrière commence.
Ok, mais c'est marrant parce que cette culture un peu de l'excellence, c'est vraiment repris en Corée. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment repris aussi dans les groupes de K-pop, ou est-ce que vraiment c'est le pays, il y a vraiment ce côté, il faut être vraiment irréprochable, quoi. Quand ils font carrément, comme tu dis, des trainees et tout pendant des années. En plus, c'est même pas sûr derrière, en fait, en soi, qu'ils fassent un groupe. Mais juste, du coup, ce seront des excellents danseurs et chanteurs. Il y a un peu ce côté, tout est bon pour le mérite, quoi. Mm-hmm. Tu vois? Est-ce que, du coup, tu peux le rapprocher, en fait, avec la K-pop? Il n'y a pas vraiment ce côté, genre, authentique? Je sais pas.
Il me semble, ouais. Je sais pas pour la J-pop. Peut-être qu'il y a des rapprochements, mais alors, je connais rien à la J-pop, donc je sais pas trop si ça fonctionne de la même façon. Mais dans la K-pop, oui, en fait, t'as des grosses agences de divertissement qui vont recruter, sélectionner des futurs potentiels idols, donc qui vont aller chercher ça, enfin, vont faire des castings, qui vont aller chercher dans les écoles d'art, ce genre de choses. Et ensuite, tu commences ton entraînement. Alors, ça peut durer 3 ans comme ça peut durer 10 ans avant de pouvoir te lancer. Ça dépend de ce que l'agence veut faire de toi. Et donc là, tu es plus ou moins payé. Alors, il y a eu beaucoup de soucis. Alors, on ne va pas pouvoir en parler là parce que ce serait trop long. Mais il y a eu des soucis, notamment avec les conditions de vie des trainees. Parce que normalement leur logement, leur bouffe, tout leurs frais en fait sont censés être payés par l'agence, mais c'est une avance en fait, et dans l'optique que quand ils font leur début, qu'ils commencent à rapporter de l'argent avec leurs albums, leurs clips, etc. Du coup ça pourra rembourser la dette qu'ils ont contractée dans leurs années trainees. Mais ils sont quand même censés aussi avoir un salaire à côté. Et donc sauf qu'il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de d'idols pas payés, qui ont vécu dans des conditions assez affreuses. La K-pop, c'est influencé par la société dans laquelle ça a été créé. Donc forcément, les normes en Corée du Sud, ils baignent dedans. Effectivement, on a une grosse culture du mérite, en fait, et de faut bosser comme un acharné, en fait, pour réussir à quelque chose. Et en fait, on va avoir tendance aussi à penser que du coup, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont le plus bossé, alors que ça dépend de plein de choses en vrai. Mais en Corée du Sud, il y a aussi ce côté où il faut vraiment beaucoup travailler, etc. Donc ça se ressent aussi dans la K-pop. Et puis il y a une grosse culture de la jeunesse aussi, c'est-à-dire qu'ils recrutent les futurs idols très très jeunes. ils les font débuter de plus en plus jeunes, c'est-à-dire que là, les derniers groupes qui se lancent, ils n'ont même pas 18 ans, ils sont mineurs en général, ils peuvent avoir 14-15 ans. Donc, il y a aussi peut-être des questions à se poser là-dessus, parce qu'on rappelle aussi que c'est quand même en général des danses, etc., qui sont assez sexualisées, assez sexy. Alors, quand c'est ce qu'ils aiment faire, qu'ils sont majeurs et tout, il n'y a pas de souci. Moi, j'adore. Hein. Mais on peut se poser des questions sur le fait qu'ils soient mineurs. Bon, après, ils ne vont pas forcément faire des trucs trop sexy non plus, justement, tant qu'ils sont encore jeunes et tout. C'est là où il va y avoir des évolutions dans le groupe. En fait, quand ils débutent très tôt, ils vont avoir un style plutôt peut-être un peu plus mignon ou... Enfin voilà, un peu plus classique. Et puis, en grandissant, ils vont partir sur des choses un peu différentes parce qu'ils évoluent tout simplement. Mais oui, surtout chez les girl groups, justement, parce que pour le coup, les girl groups, elles sont quand même très sexualisées dès le début. Et elles commencent très jeunes. Du coup, ça pose question, quoi.
Est-ce qu'on peut passer du coup au BTS? Donc déjà, qu'est-ce que c'est le groupe BTS? Comment est-ce qu'il s'est formé? C'est quoi le phénomène aussi BTS? Parce que vraiment, tout le monde en parle et tout. Est-ce que tu pourrais présenter un peu le groupe?
Alors BTS, du coup, c'est un groupe de K-pop, un boy group de 7 membres, dont le leader s'appelle RM. Et donc, ils se sont lancés en 2013, comme je disais, avec un style... Très hip-hop urbain, avec beaucoup de place laissée au rap. Même à la base, en fait, ça devait être un groupe de rap essentiellement. Et en fait, ils ont finalement recruté des vocalistes. Donc, pour la petite anecdote, en plus du coup, Jungkook, qui est l'un des principaux vocalistes qui fait beaucoup de parties, la plupart des parties en chant, en fait, à la base, ça devait être un rappeur secondaire. Et donc c'est pour ça que dans leur première musique, il y a quelques passages de rap rappés par Jungkook. Maintenant, il chante surtout. Mais ils se sont lancés en 2013. Ça a marché très très vite. Ils ont eu beaucoup de succès très vite. C'est juste que leur agence avait assez peu de moyens. Donc ils ont un peu galéré, ils ont beaucoup travaillé. Mais du coup, ils ont commencé un peu à rafler tous les prix. Ils ont des... comment dire ? Dans leurs paroles, etc., dans leur art, en fait, ils mettent beaucoup de place à des lyrics. C'est eux qui écrivent leurs lyrics, la plupart de leurs lyrics, surtout les rappeurs accordent beaucoup d'importance à l'écriture des paroles et à la production de la musique, de leur musique eux-mêmes. Et ils vont essayer, enfin, dès le début, en fait, ils ont décidé de prendre un angle où ils vont beaucoup parler à la jeunesse, en fait. Notamment à la jeunesse coréenne qui subit beaucoup de pression pour réussir à l'école, pour réussir au travail, pour être toujours le meilleur, etc. Et alors ça peut paraître un peu paradoxal parce que eux, ils font partie de l'élite du coup, ils ont réussi, ils se sont entraînés, ils ont réussi à démarrer un groupe, etc. Mais ils vont quand même s'adresser à ces jeunes-là en leur... parlant du fait que, enfin, il y a des musiques sur l'école, sur le fait que c'est un peu du bullshit, que pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'école pour, enfin, si c'est pas parce que t'es mauvais à l'école que tu vas rien faire de ta vie en fait. Ce genre, il y a beaucoup de critiques de la société coréenne très surconsommatrice, etc. Et on parlait des problèmes de la jeunesse, du fait d'être perdu en fait, de pas savoir quoi faire de sa vie, etc. Et ça, je pense que ça a beaucoup parlé, et ça, à l'international aussi en fait. Et c'est, je pense que, enfin, moi quand j'en parle ou que je vois des messages, des choses écrites par rapport au BTS en fait, ce qui ressort le plus, c'est vraiment les paroles en fait, qui sont extrêmement réconfortantes en fait et très empowerment en fait, genre en mode un peu émancipatrice presque, mais individuellement, c'est-à-dire c'est presque du développement personnel en fait, quelque part, c'est voilà, enfin peu importe d'où tu viens, qui tu es, tu vaux quelque chose en fait, et reste à le montrer en fait aux gens, et tes haters, t'es un king, t'es une queen, genre t'y fais pas gaffe en fait, enfin c'est beaucoup ce genre de choses.
C'est vrai que, enfin il y a même un côté un peu tendresse je trouve des fois chez les BTS, mais ouais en K-pop, mais même ouais dans les paroles il y a un côté très mimes, un peu Disney, genre je sais pas comment dire, mais ce côté vraiment tout va bien et tout qui est rassurant. Mais du coup les BTS sont très engagés contre les discriminations, est-ce que tu pourrais un peu en parler de tout ça?
Alors, du coup, là, on va parler de choses peut-être parfois un peu paradoxales parce que
Ouais.
donc ils sont dans donc les boss, on va dire, de actuellement de l'industrie de la K-pop. Et donc, ils sont dans. Enfin, c'est très capitaliste, très, très libéral, etc. Mais en fait, ils vont être très libéraux sur un peu tous les plans. C'est-à-dire que ils vont être libéraux aussi plutôt dans l'aspect sociétal. C'est-à-dire qu'ils sont assez ouvertement en soutien aux LGBT. Alors, ils peuvent. Enfin, vu la société coréenne d'aujourd'hui, c'est encore très compliqué de prendre position très clairement en faveur des LGBT et encore moins de faire un coming out parce que je le pose juste à là, mais le seul artiste ouvertement gay de K-pop en Corée du Sud, il a dû autoproduire son album parce qu'aucune agence n'a voulu ne le produire, il n'a pas pu en refaire un deuxième et aucune agence ne voulait de lui. Donc, et c'est le seul artiste ouvertement gay. Et donc, c'est très compliqué d'assumer ce genre de choses dans ce monde-là. Mais ils vont quand même. Et ça, je pense que c'est aussi permis grâce à leur succès à l'international, en fait, où, bah, du coup, il y a beaucoup de personnes queer en demande, en fait, de ce genre de choses. Bon, en Corée du Sud aussi, mais encore une fois, c'est plus difficile à assumer, on va dire. Mais du coup, ils vont se permettre voilà, de soutenir les LGBT ouvertement. Ils vont parler beaucoup à l'inclusif, etc. Il y a eu beaucoup de critiques, surtout à leur début, dans des musiques très sexy, enfin, des paroles vraiment sexistes.
Ouais, par
Bah, je pense
exemple.
à War of Hormones, qui est une musique où. Alors, en fait, c'est une espèce de parodie sur l'esprit un peu adolescent. Donc quand t'es adolescent et que tu découvres un peu la sexualité, que tu découvres un peu voilà la drague, etc., que t'es attiré par les autres, etc., et genre tes hormones qui font un peu le bordel, voilà, War of Hormones. Et sauf que dedans t'as oui, les femmes, c'est un mystère et oui, les femmes sont un mystère et nous, les hommes, sommes là pour les résoudre, ce genre de choses. Enfin, genre, il y a d'autres trucs comme ça, mais oui, un peu, ils chassent les meufs et genre, c'est beaucoup centré aussi sur l'apparence de la meuf, en fait, sur son corps, etc. Et bon, c'est pas ouf. Et ils ont des critiques là-dessus. Et maintenant, en fait, RM, du coup, le leader et celui qui écrit la plupart des textes. Fait réviser ses textes par une spécialiste en fait en égalité homme-femme pour être sûr
D'accord.
qu'il écrit pas de choses sexistes et d'ailleurs ça leur musique Boy with Love c'est a priori directement en fait en réponse à leur première musique Boy in Love où c'était un schéma très classique justement un peu cliché sexiste de la meuf trop belle qui passe et waouh elle est trop stylée et puis nous on va lui courir après etc mais encore une fois où on parle que du physique de la meuf en fait et du fait que tu sais enfin elle est chiante mais tu veux quand même te la taper quoi en gros hein. Et avec Boy with Love du coup ils ont fait un truc beaucoup plus inclusif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas genré. Enfin, c'est Boy with Love parce que eux, ce sont des boys, mais ils n'ont pas mis de. Ils n'ont pas genré, en fait, la personne pour qui ils sont amoureux, tu vois. Genre pour que tout le monde puisse s'identifier à ça, etc. Et ça va être beaucoup plus une chanson un peu d'amour, mais un peu plus mignonne et un peu plus sur le quotidien, en fait, sur le fait de qu'est-ce qui les rend heureux avec la personne, etc.
D'accord.
Et c'était vraiment une réponse à cette. À cette première version qui est Boy in Love, parce qu'ils ont quand même compris certaines choses et qu'ils font attention. Et ils ont fait des discours à l'ONU aussi, ouais, pour tout ce qui est changement climatique notamment, mais où Namjoon avait, enfin RM pardon, avait parlé de l'égalité de genre, l'égalité de race, etc. Et ils ont rencontré le président des États-Unis, Joe Biden, aussi pour parler de racisme anti-asiatique, parce que bah, forcément ça les touche, parce qu'ils bah, ils en ont vécu quand même aux États-Unis, enfin à l'international.
Et
Ouais,
puis.
c'est clair. Bah, après aussi, on peut parler du contexte récent avec le Covid.
Ouais.
Malheureusement, le racisme asiatique a augmenté et aussi bah, le racisme envers
Oui,
les groupes en fait. C'est particulièrement dans ce contexte-là du Covid, qui se sont exprimés là-dessus, parce que évidemment, il y a eu des agressions aux États-Unis, enfin en France aussi, mais eux, du coup, ils ont eu accès aux informations états-uniennes surtout, de personnes asiatiques qui se sont fait agresser, etc. Et du coup, ils ont pris position là-dessus. Ils ont aussi pris position en soutien à Black Lives Matter.
OK.
Et puis voilà, mais oui, en général, ils font assez attention. Je te l'avais déjà raconté, Louise, plusieurs fois, mais parce que ça m'amuse. Mais dans une interview, l'intervieweur du coup qui demande à RM du coup s'ils sont en couple, en gros, si un des membres est en couple. Et t'as RM du coup qui répond en anglais que ils sont pas en couple, ils n'ont actuellement ni petite amie ni en français ça marche pas, mais ni petite copine ni petit copain, c'est ça, voilà. Et genre il a bien fait attention à inclure, alors que aucun n'a fait vraiment de coming out, à part éventuellement Suga, qui est un des rappeurs qui a parlé dans une interview de ses goûts pour, enfin, parce que il devait répondre qu'est-ce qu'il cherchait dans une meuf, en gros, qu'est-ce qu'ils attendaient d'une meuf. Et tous les autres ont donné des réponses un peu lame, en mode « Oh, je veux qu'elle ait les cheveux longs et qu'elle fasse bien la cuisine. » En gros, c'est ça, quoi. Et Suga, lui, il a dit... c'était en coréen, donc je vais pas essayer de faire une traduction littérale, hein, mais en gros, c'était quelque chose comme « Mais moi, c'est la personnalité qui compte, etc. » Mais en fait, dans les paroles coréennes, ce qu'il dit, en fait, ça peut s'apparenter à un peu un coming out pansexuel, parce que... Enfin, il y avait une question de genre, en fait, dans sa réponse, et en mode je m'en fous un peu du genre, quoi.
Ok, vraiment, ce côté, c'était pas genre ultra écrit sa réponse, quoi.
Non, c'est... On a un peu interprété après. Moi, comme je parle pas coréen couramment, je peux pas vérifier, en fait, que. Voilà, mais je sais qu'un linguiste japonais, un japonais linguiste en coréen, avait parlé de ça et avait expliqué que non, c'est un hétéro aurait pas dit ça, en gros. C'est la dernière info que j'ai.
Ok, ouais, donc il y a vraiment ce côté, c'était pas genre ultra écrit sa réponse, quoi. Mais justement, quand tu parles du coup de ce côté très libéral dans leur démarche et tout, parce que du coup, bah en fait, on a un peu l'impression qu'il faut qu'ils soient sur tous les fronts, quoi. Faut qu'ils soient aussi engagés par rapport à la Gen Z aussi, qui est beaucoup plus ouverte sur ces questions-là. Bah forcément, il faut qu'ils soient engagés sur les questions queer et tout. Mais à côté, bah ils font des millions d'euros et tout, enfin, un million d'argent et tout. Est-ce qu'il y a pas des limites un peu à tout ça? Enfin, tu vois, c'est quand même le capitalisme. En fait, c'est capitaliser sur des luttes en fait militantes, quoi. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Moi, c'est ce qui me frustre en fait avec BTS, parce que moi, je suis un gros fan depuis des années maintenant, ça me touche beaucoup, les prises de position qu'ils ont, etc. Ça me parle, mais je vois les limites aussi, quoi. C'est vrai qu'ils sont dans un système néolibéral qui capitalise, qui engrange des millions et des millions d'euros, bon, ils sont pas milliardaires, je crois pas, mais enfin voilà, ils font vraiment beaucoup de thunes, et notamment parce que bon, s'ils faisaient des thunes que en vendant leurs albums, enfin je veux dire, ça c'est normal bien sûr, mais ils font beaucoup de partenariats avec des grosses marques. Et genre pas forcément ouf. Enfin là, ils étaient ambassadeurs de Louis Vuitton. Alors tout le monde était content parce que voilà, ils sont super stylés. Il y avait un espèce de petit clip où genre avec un défilé, ils étaient super beaux. Et oui, bah, on adore. Mais Louis Vuitton, c'est une entreprise en termes de droits humains, respect de droits humains. Enfin le mec, il est milliardaire, il se fait de la thune en exploitant les autres. Ils ont fait une collaboration avec McDo. Bon, on sait très bien les conditions de travail dans McDo. Ils sont engagés pour pour l'écologie, sauf qu'ils font un partenariat avec Hyundai. Alors oui, du coup, enfin, ce qui peut s'apparenter à du greenwashing un peu, parce que ils sont dans, enfin, c'est pour un peu la voiture électrique, je crois, des trucs un peu écolo, mais c'est développement durable, quoi. C'est les technologies au service du vert, enfin tout. Tout le greenwashing un peu de ces marques-là, enfin ils sont complices en fait. Et même si, enfin moi je suis persuadée qu'ils sont sincères dans leur démarche et qu'ils pensent vraiment mettre à profit leur succès et leur argent à des causes qui leur tiennent à cœur, bien sûr, parce qu'ils ont fait aussi beaucoup de dons à des assos, des trucs comme ça. Mais au final, c'est quand même assez contradictoire, parce qu'au final ils perpétuent le système quand même.
Ouais, c'est ça. Bah après, c'est aussi dans l'industrie, et puis de toute façon, bah c'est pas non plus récent que les marques utilisent comme ça les idoles pour faire de l'argent, quoi, derrière, qui utilisent la notoriété en fait des idoles. Enfin, c'est pareil avec les Instagrammeurs, Instagrammeuses et tout, tu vois. Il y a ce côté où on fait de la thune avec des gens qu'on voit partout, forcément. Donc, on va voir nos marques aussi partout, comme on voit partout les BTS.
Oui, moi, je les accuse pas d'être pire que les autres et de faire de la merde. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'ils ne font pas forcément trop pour en sortir de ce schéma-là, en tout cas. Enfin, c'est un peu beaucoup de la façade quand même. Enfin, je veux dire, ils ont rencontré le président, enfin l'ancien président de la République de Corée de Corée. Donc, ils ont été ambassadeurs. Enfin, alors je sais plus le terme exact, mais c'est un truc d'exportation. Enfin, en gros, de rayonnement. Ils ont été nommés les ambassadeurs du rayonnement de la Corée du Sud, un truc comme ça. Enfin, et donc ils ont rencontré le président, etc. Enfin, des gros bails, quoi. Et mais ils ont jamais pris position officiellement sur les lois en Corée du Sud. Ils ont jamais pris position officiellement sur le code pénal. Enfin, alors l'homosexualité n'est plus criminalisée, sauf dans le milieu militaire. Dans le code militaire, tu peux encore te prendre de la prison parce que t'as eu une relation gay. Ça, ils ont jamais pris position là-dessus. Ils n'ont jamais pris position sur la montée du masculinisme en Corée du Sud, en backlash à la montée du féminisme, du coup. Ça, ils n'en parlent pas, en fait, de ce qui se passe, de ce qui se passe chez eux, entre guillemets. Enfin, ils ne parlent pas forcément de ce qui se passe chez les autres non plus, en fait. Mais c'est juste qu'ils ne prennent pas de position concrète, en fait. Ils sont pour l'égalité. Oui, parce qu'en fait, ils ont un impact, une influence tellement énorme que, alors certes, ce serait dangereux... ce serait dangereux. S'ils faisaient ça, oui, ça, sûrement qu'il y aurait des répercussions assez compliquées pour eux, parce que voilà, ils se prendraient aussi du harcèlement, et ils se prendraient aussi un backlash de la part peut-être de beaucoup de fans coréens et coréennes, peut-être. Mais en attendant, ils sont ouverts, ils soutiennent les queers, etc., mais n'empêche que les queers en Corée du Sud souffrent, en fait. Et sont victimes de discrimination et de politiques assez vénères. Et donc, je pense que ça pourrait quand même être un grand pas, en fait, si les BTS, ceux qui dominent actuellement l'industrie de K-pop, si eux s'engageaient officiellement contre les discriminations en Corée du Sud, etc., et qui soutenaient ouvertement, et qui essayaient d'utiliser leur influence, en fait... Bon, parce que là, leur influence en Corée du Sud, au niveau légal, je veux dire, ça a influencé sur le fait de potentiellement exempter de services militaires les Coréens, les artistes idoles, pour BTS, parce qu'ils ramènent tellement d'argent au pays que on ne veut pas trop qu'ils s'arrêtent quoi, pendant 2 ans, donc on va peut-être les exempter de services militaires. Donc ça, ok, ils ont réussi à influencer là-dessus, j'ai envie de dire. Mais il y a d'autres trucs, quoi. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est pas les seuls à faire ça, très loin de là. Enfin, c'est la norme, en fait.
Comment tu pourrais définir, en fait, du coup, ton adoration pour les BTS? Du coup, vu qu'elle est un peu, je dirais pas paradoxale, mais tu vois, elle est pas non plus à 100%. On sent que, du coup, tu as conscience, en fait, des défauts. Mais qu'est-ce qui fait que tu seras toujours, enfin peut-être pas toujours, mais que tu es vraiment un grand fan des BTS, que tu as vraiment une attache très très profonde envers ce groupe? D'où ça vient, qu'est-ce qui fait que vraiment ce groupe-là, ah ouais, lui, tu le portes vraiment dans ton cœur, tu vois?
Ah, c'est compliqué. Il y a peut-être aussi un peu un fruit du hasard. Enfin, quand j'ai découvert la K-pop, j'en ai parlé à une amie, Inora, ouais, de ouf. Et du coup, quand elle a su que je venais de tomber sur des clips de K-pop, elle m'a dit attends, faut que je te montre un truc. Et là, elle m'a fait découvrir donc le clip de Blood, Sweat and Tears de BTS, donc qui datait de fin 2016, je crois. Et c'est ça, je l'ai découvert fin 2016 et je suis tombée in love direct. Genre, je sais pas trop ce qui s'est passé. En fait, c'est juste que les chorégraphies, les clips, ça m'a impressionnée déjà. J'aimais beaucoup la musique. Parce que de base j'écoutais quand même un peu de pop, pas que ça, mais j'écoutais déjà pas mal de pop, en fait, et musicalement ça me parlait, mais c'est surtout le côté visuel, en fait. J'étais hyper impressionnée, je trouvais ça super stylé, je les trouvais grave canon aussi, évidemment.
Tes préférés, c'est qui?
Ah, alors pour les connaisseurs et les connaisseuses, voilà. Mes bias, c'est V et Suga, voilà. Okay. et depuis, en fait, puis j'aime beau, en vrai, j'aime beaucoup leur message, en fait, même si j'y vois effectivement les limites et ça peut parfois un peu me frustrer, m'énerver. Mais en même temps, je trouve qu'ils sont extrêmement sincères. Après, bon, je peux pas vérifier, hein, je suis pas dans leur tête, mais de ce qu'ils dégagent, en fait, ça a l'air extrêmement sincère. Ils parlent beaucoup même de leurs problèmes perso, en fait. Ils se livrent beaucoup dans leur musique Et ou même en interview ou ce genre de choses, ils peuvent se livrer aussi. Mais dans leur musique, c'est vraiment, ça transpire eux, en fait. Et j'aime beaucoup. Et puis, évidemment, qu'ils sont extrêmement talentueux. Enfin, ça, bon, il n'y a pas... Après, en K-pop, je veux dire, les groupes qui ont de la visibilité, c'est des gens talentueux, hein, tous. Hein, donc là, il n'y a pas trop de... Mais ouais, je trouve qu'ils ont une identité, en fait, extrêmement personnelle à eux. Et je les trouve extrêmement touchants et ils me font beaucoup de bien, en fait. Ils me font beaucoup rire aussi. Ils me font vraiment beaucoup rire. 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me
bring the fire, set the night light. Bah, écoutez, merci pour votre écoute, votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta Reine des Terres, @reinedesterres. De laisser aussi une petite note sur Spotify. Si vous avez envie de creuser le vaste sujet de la K-pop ou des BTS, bah, on vous mettra des ressources du coup dans la description. On se dit dans un mois et je te laisse laisser un petit message aux ARMY.
Bisous les ARMY, salamé.